RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les grandes gueules. Et si vous avez raté l'émission, vous avez les podcasts à votre disposition. Aujourd'hui, Laura Barton-Martinez, la sophrologue, Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise, et Bruno Poncet, le cheminot. D'ici midi, que va-t-il se passer dans les GG, dans les grandes gueules? Vous savez qu'on a commencé l'émission en s'intéressant à ce que disait le ministre de l'Intérieur, l'interdiction de la vente d'alcool et de la consommation sur la voie publique à Paris. Il veut l'étendre à toute la France. Il demande au préfet d'interdire la vente d'alcool et la consommation sur la voie publique partout en France. Venez en discuter avec nous. La clim devient...
Je connais quelqu'un, je ne dirais pas son nom, il travaille en régie là en ce moment même, qui était soulagé parce qu'il a fait le plein avant pour son dîner de ce soir. Il dit ouf, oh là là.
Je crois même qu'il est encore plein aujourd'hui à ce temps-là.
Un plan clim prioritaire dans les hôpitaux, qui dit ça? Les écologistes, Madame Sandrine Rousseau elle-même, elle l'a dit hier sur BFM TV, la clim prioritaire dans les hôpitaux, ça y est, c'est le grand volte-face des écologistes, la clim n'est plus de droite, maintenant ça devient écologiste, la climatisation aussi. Allez, on va en parler justement avec notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Face au GG, Marion Maréchal, eurodéputé Identité Liberté. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que cette canicule est extraordinaire. On voit les écologistes se convertir à la climatisation. On vous voit, vous, finalement, abandonner vos réflexions climato-sceptiques.
Ah non, pas du tout. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas faire de comparaison entre, d'un côté, des gens qui, quand même, à travers une technophobie socialo-écolo, on conduit quand même à des morts, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une idéologie qui est meurtrière. Je ne vais pas vous revenir sur les chiffres, vous l'avez vu, on est face manifestement à des taux de mortalité dans les hôpitaux et dans les EHPAD qui sont surévalués. On a 24 arrêts cardiaques à Paris hier contre 10 en moyenne. Donc je veux dire, on ne peut pas en rire, on est face à quelque chose d'absolument dramatique qu'on pourrait d'ailleurs décliner dans plein d'autres secteurs, parce que sur le nucléaire et dans d'autres aspects, c'est une réalité. On pourra quand même accorder au camp national la cohérence de ce point de vue-là, puisque le plan clim, ça fait des années que c'est une proposition du camp national. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête deux secondes sur l'état de d'écolo-bolchévisme dans lequel on évolue, parce qu'on a quand même, je pèse mes mots, un État qui prend 60% de la richesse produite, qui est incapable donc de protéger les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, et d'équiper, comme on le voit, les équipements publics, et qui, quand les gens s'organisent face à cette défaillance, parce que c'est le cas, les empêche de s'organiser. Donc on a l'affaire de ce père qui tente d'équiper la chambre de sa maman de 83 ans qui est hospitalisée depuis plus de 6 mois dans une chambre non climatisée, à qui on dit non, c'est impossible parce que ce serait injuste pour les autres malades. Donc c'est pas grave, qui crèvent tous à égalité, quoi, c'est ça en fait. On a des parents qui se cotisent pour mettre en place une climatisation dans une école, à qui on dit là, ah bah oui, mais ce serait injuste pour les autres enfants, donc que tous les enfants fassent des malaises à égalité, ce sera une bonne chose. Et en plus, non content de tout ça, on paye des milliards d'euros d'agences comme l'ADEME qui vont sur tous les plateaux de télévision nous culpabiliser et nous dire que la climatisation serait un drame absolu.
Donc, ce ne sont pas quand même les écologistes qui sont responsables de ce réchauffement climatique. Ils sont plutôt des lanceurs d'alerte depuis des années.
C'est les écologistes
J'ai retrouvé vos déclarations et vous étiez en train. Il n'y a pas encore longtemps, vous disiez attendez, c'est un débat, tout le monde n'est pas d'accord, etc.
Alors moi, j'ai dit toujours la même chose, c'est très simple. J'ai dit qu'il y avait évidemment un réchauffement et un bouleversement climatique. Je ne l'ai jamais nié, donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Deux, la seule chose que j'ai admise, mais je pense que même les scientifiques ne sont pas d'accord, c'est de dire quelle est la part de responsabilité humaine. C'est-à-dire, OK, il y a une responsabilité humaine, ça a l'air d'être admis. Est-ce que c'est 10, 20, 50 ou 60%? Personne ne le sait. Mais en revanche, il y a quand même une petite chose qu'il faut rappeler. Si on était allé au bout du délire idéologique que promeuvent les écolos depuis des années, qui organiserait la décroissance, l'appauvrissement et je ne sais combien de tsunamis d'interdiction de réglementation.
C'est à cause du capitalisme, tout ça.
La France est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1%.
Un des pays les plus décarbonés.
Je veux dire, même si on était tous, en effet, aux toilettes sèches et qu'on se lavait avec du sable et qu'on arrêtait de se chauffer l'hiver et de se climatiser l'été, ça ne réglerait en rien le problème mondial des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut être raisonnable. D'accord. Voilà, on peut être raisonnable.
La clim ne va pas tout résoudre. On ne va pas climatiser l'ensemble de la France.
Donc est-ce qu'il s'adapte
Est-ce que l'adaptation, c'est pas justement travailler différemment? Certains disent même qu'il faut remettre en cause le capitalisme parce que c'est ça qui détruit la planète.
Non, bah, le, le capitalisme, si vous voulez, ce qui va permettre d'assurer la transition écologique, c'est justement parce que on est dans un pays dit capitaliste qui produit de la richesse et qui nous permet de financer cette transition écologique. A priori, regardez les pays en voie de développement, ils sont évidemment beaucoup moins avancés sur la question de la transition écologique parce qu'ils n'ont pas les moyens de cette transition écologique, que ce soit d'ailleurs sur la manière de produire, sur le plan agricole, soit sur la manière de traiter les déchets ou simplement d'adapter les bâtiments, parce que ça a un coût, cette transition écologique. Donc au contraire, moi je crois que c'est précisément par un modèle économique qui produit et grâce au génie humain qu'on va s'en sortir. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Et là où j'en veux énormément.
Le plan national, comme vous l'appelez, est devenu écolo.
Et là où j'en veux énormément, mais c'est pas une question. C'est, enfin, ça, nous on est. Alors, excusez-moi.
Vous parlez de rénovation énergétique. Mais on a toujours entendu parler de.
On a toujours été extrêmement pragmatique de ce point de vue-là, puisque les seuls qui depuis des années parlent d'adaptation, c'est nous. C'est-à-dire, on a une gauche qui en effet depuis des années. Crie de manière ultra alarmiste sur le réchauffement climatique, mais qui en aucun cas n'a permis à la société d'appréhender ce problème. Nous, on a été pragmatique depuis le début et on alerte depuis des années pour dire ceux qui seront les premiers touchés, c'est quand même pas très sympa de la part de la gauche, ce seront justement les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc de ce point de vue-là, on est parfaitement cohérent et je vais même au bout du sujet. On a aujourd'hui des dispositifs qui existent qui valent entre 10 et 15 milliards selon les estimations de fonds, que ce soit la prime Rénov', soit le fonds chaleur de l'ADEME, le fonds vert, qui aujourd'hui exclut pour l'essentiel justement la climatisation. Donc je veux dire, on a des moyens immédiats qui devraient nous permettre de pallier à ce dispositif. Et je vais même au bout, puisque vous me parlez des écolos et on parle de cohérence. Il n'y a pas moins de 200 milliards qui sont prévus pour les 10 années à venir pour faire monter en puissance les énergies intermittentes renouvelables. Dont on sait aujourd'hui, dont on connaît toutes les limites, dont on connaît l'incompatibilité avec le nucléaire, ne serait-il pas temps d'interroger ce modèle qui va avoir évidemment un coût, même j'ai envie de dire esthétique, considérable dans le paysage français, pour justement réorienter ces 200 milliards sur l'adaptation sur le plan agricole, sur le plan du bâti, plutôt que une fois de plus d'avancer vers des lubies écologistes qui n'ont pas d'efficacité sur le plan énergétique.
Est-ce que finalement, là, au-delà du débat sur la climatisation, est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça nous permet pas de toucher du doigt la lenteur de l'État? Est-ce que c'est pas ça en fait? Parce que depuis 2003, les enseignements, les rapports, avant même, on les a. Mais où on est toujours étonné, c'est de voir qu'on n'a pas rénové autant les écoles, qu'on n'a pas installé cette fameuse climatisation. Parce que on peut toujours l'installer. Après, on l'utilise ou on l'utilise pas. Mais au moins, on se dit, on a l'outil. Comme on a un airbag. Les constructeurs de voitures, ils ont mis les airbags, ils ont mis la climatisation dans les voitures. Et puis après, parce qu'on leur a donné des normes. Et ils l'ont fait. Mais là, est-ce qu'on touche pas plutôt la lenteur de l'État, de la prise de décision?
Là, ça va au-delà de la lenteur. C'est le refus. Je vous donne des exemples très précis. À Nantes, il y a un hôpital flambant neuf qui a été construit. Il y a une gare flambant neuf qui ont été construits. On a refusé d'y installer de la climatisation. Donc ce sont des fours aujourd'hui. On a mis en place de nouvelles réglementations sur les nouvelles constructions justement dans le bâti qui ont dissuadé les constructeurs pour des raisons d'émissions, de gaz à effet de serre et de calculs écolo d'installer justement des systèmes de refroidissement. Je vous le dis, on en parlait tout à l'heure, on a exclu par exemple les pompes à chaleur réversibles alors que le coût énergétique est le même de ces dispositifs rénovables. Donc là c'est un choix, voilà, on s'est plié d'ailleurs la fausse droite, le sang, tout le monde s'est plié à ce truc-là. Donc on a organisé la société et aujourd'hui on a des gens dans des bureaux climatisés comme l'ADEME qui expliquent qu'il faut mettre des draps mouillés à ses fenêtres pour régler le problème. Voilà, c'est du délire. C'est du délire meurtrier.
Juste avant que vous n'arriviez, on discutait, vous avez fait votre choix, ce sera Jordan ou Marine si elle se présente au fait?
En l'occurrence, c'est malheureusement les juges qui vont en décider. Voilà, puisque le 7 juillet nous aurons la
décision. Quel est le meilleur candidat
final? Mais les deux sont de très bons candidats.
Oui, enfin,
les deux
sont de très bons candidats. Jordan Bardella, enfin, une petite longueur d'avance.
Je sais que les journalistes veulent lancer le débat, mais c'est un débat.
Non, je lance pas le débat. C'est un débat. Parce qu'on teste les deux dans les sondages et il est mieux placé.
Ne nous perdons pas, j'ai envie de dire, dans ce débat, d'ailleurs sur lequel on pourrait revenir selon les configurations, mais indépendamment de ça, le RN a pris sa décision. Elle est claire, elle est nette. Ce sera Marine Le Pen si elle peut y aller. Ce sera Bardella si elle est empêchée. Ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce sondage, c'est que le camp national est très haut. Mais qu'être très haut au premier tour n'est pas suffisant. Ça, et on voit qu'il y a quand même aujourd'hui des gens qui.
Votre problème, c'est le deuxième tour.
Qui restent chez Zemmour, qui restent chez Retailleau. Et donc, tout l'enjeu, ça va être d'aller convaincre ces Français-là. Ce à quoi je vais essayer de m'atteler. Je crois qu'on a beaucoup de choses à leur dire, beaucoup de choses en commun. Donc, de leur expliquer qu'il ne faut pas être dans la dispersion. Qu'aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir être intégrés, leurs idées, qu'elles puissent être intégrées dans une coalition potentiellement gagnante, sans se compromettre avec le centre, sans avoir rien à devoir en cas de second tour aux voix de gauche. Et donc, évidemment, c'est le choix le plus utile pour la France face à la menace Mélenchon.
Justement, Jordan Bardella, Emmanuel De Villiers.
Toute petite parenthèse d'abord par rapport aux gens qui empêchent d'amener une climatisation dans une chambre ou dans une école. Assez d'égalitarisme en France. parenthèse fermée. Concernant la candidature, dans dix jours, la décision inouïe dans l'histoire politique française va tomber. L'arrêt de la Cour d'appel qui, vraisemblablement, même si une surprise est possible et je ne prends pas parti, rendra inéligible la candidate naturelle, Madame Marine Le Pen. Auquel cas, c'est donc Jordan Bardella et sa compagne qui seront devant les Français pour entrer à l'Élysée. Et moi, je m'adresse tout simplement à Marion Maréchal dans cette configuration et rebondissant sur son propos. Elle aura un rôle important pour ramener Monsieur Bardella à la réalité économique de la France, pour sortir du socialisme, du programme quand même de Madame Le Pen, des impôts sur la fortune, des trucs qui vont ruiner le pays en faisant fuir les derniers riches et en nous mettant tous par terre.
Bon, alors un candidat libéral, c'est Jordan Bardella.
Ça me semble un poil caricatural. Je ne sais pas si je pourrais répondre point par point.
Il y a quand même beaucoup d'ambiguïté sur le programme économique du Rassemblement National.
Si vous regardez ce qui a été fait par le camp national, d'ailleurs au sens large, allié compris, au moment du budget, on est quand même face à une offre qui a consisté à baisser systématiquement la fiscalité sur les classes moyennes et les classes populaires, à vouloir réduire le train de vie de l'État, à vouloir supprimer des agences. Donc on n'est pas face au délire économique proposé aujourd'hui par Mélenchon. Avec 300 milliards d'euros d'impôts supplémentaires.
Vous avez un rôle pour influencer Jordan Bardella dans un programme qui serait en adéquation avec l'assentiment qu'il recueille pour pouvoir être élu.
Maintenant, j'incarne, et merci de me permettre de le préciser, dans cette coalition, en effet, un courant plus libéral sur les questions économiques. Comptez sur moi pour tâcher de faire vivre ce courant et surtout m'adresser.
Il y a donc plusieurs courants désormais.
Mais c'est le principe d'une coalition. Le principe d'une coalition, c'est que vous associez des gens qui sont complémentaires et qui ne sont pas d'accord sur tout et qui se retrouvent d'ailleurs, et ça va être l'objet de la présentation d'ici quelques semaines, d'un programme présidentiel qui adapté à la situation budgétaire et économique du pays aujourd'hui.
L'état, le RN est un parti attrape-tout.
Alors, parlons aussi de ce qui est arrivé au jeune Louis, 17 ans, qui est un gamin de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui a été littéralement lynché à mort par 5 jeunes qui lui avaient tendu un guet-apens. Donc un jeune de plus tué par d'autres jeunes. Quelles leçons en tirer ?
Merci déjà d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de cette affaire, alors qu'on est quand même face à un scandale d'État, une fois de plus. C'est un jeune qui était placé à l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Il était sous la responsabilité de l'État. Et la conséquence de cette tutelle, c'est qu'il s'est fait lyncher à mort, parce qu'aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est un drame pour les enfants qui y sont placés. Parce que l'État, met en contact des enfants vulnérables avec de potentiels agresseurs et délinquants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des cas comme Louis, mais on parle de violences quotidiennes, on parle d'agressions quotidiennes, on parle de viols, on parle de centaines, si ce n'est même de milliers de jeunes filles aujourd'hui placées à la SE qui sont en situation de prostitution. Mais la honte, c'est la honte. Voilà. Donc la responsabilité de l'État, elle est dramatique. D'ailleurs, ça fait beaucoup de responsabilité de l'État. Hein. Parlons-en d'ailleurs ces dernières semaines. C'est évidemment extrêmement choquant, d'autant plus que le jeune Louis, je le rappelle, a porté plainte. Il ne sait rien passé. Ces jeunes étaient récidivistes. Il ne s'est rien passé. Vous voyez, j'ai dit il y a quelques jours, j'ai plus confiance dans la justice de mon pays, mais je ne peux que réitérer. Voilà, je ne peux que réitérer. Donc, évidemment que ça interroge plusieurs choses. Ça interroge, le fonctionnement de cette aide sociale à l'enfance. Voilà. Est-ce qu'un jour...
On avait reçu l'auteur d'un livre ici qui s'appelle La Fabrique du Malheur. Je vous conseille de le lire.
Absolument.
Justement, où il dénonce justement la prostitution, la violence, et c'est accablant.
Est-ce que vous vous rendez compte que l'espérance de vie des gens qui sont passés par des foyers de l'ASE est de 20 ans de moins que la moyenne nationale? 20 ans de moins. C'est-à-dire que les hommes meurent à 60 ans. Et les femmes meurent à 65 ans quand ils sont passés par des foyers. Parce que la réalité, quand on passe en foyer, c'est qu'on ne s'en remet jamais la plupart du temps. C'est des gens qui tombent dans la marginalité, qui tombent dans la drogue, qui tombent dans l'alcool.
C'est un problème avant, c'est pour ça qu'ils sont dans les foyers.
Mais d'accord, mais enfin, vous imaginez donc, en fait, on les fait sortir pire, on n'apporte pas de solution, on les détruit.
On
les détruit. Donc à un moment donné, je sais que les enfants votent pas, mais le gouvernement, l'État, là, depuis 40 ans, est-ce que vous pourriez éventuellement vous pencher sur cette situation pour apporter une solution? Et la deuxième chose qui doit être interrogée dans cette affaire, c'est une fois de plus la question de l'excuse de minorité. Parce que
Il y a trois mineurs et deux adultes.
Exactement. Face à ces criminels,
ouais, 17 ans, les mineurs.
C'est que l'excuse de minorité soit activée et que donc on se retrouve avec des jeunes qui ne puissent pas être condamnés au maximum à la moitié de la peine prévue par le code pénal. Donc moi, je milite une fois de plus pour l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne puisse pas traiter ces barbares aujourd'hui comme de grands criminels.
Laura.
Oui, alors moi je voudrais rebondir justement en parlant de l'affaire Louis, mais aussi qui va pouvoir faire écho à tellement d'autres affaires. Pour moi, ce qui tient une cité, ce qui tient une nation, c'est la justice. Or, là, sur tous les sujets que l'on touche, tous les sujets que l'on apporte sur ce plateau, on se rend compte que la justice est soit d'un côté, soit défaillante. Moi, je voudrais savoir, et je pense que mon vote ira au candidat, ou plus exactement au programme, qui me proposera une réelle solution pour que la justice fasse enfin son travail correctement et que l'on puisse être tous jugés de la même manière à égal. Je ne veux plus entendre qu'un, comme le disait Bruno, que Olivier Bailly s'en sorte avec 18 mois de sursis pour avoir proposé sa fille sur des réseaux pédocriminels. Je ne veux plus jamais entendre que on dit à une jeune femme que on va l'accuser de harcèlement si ça continue parce qu'elle alerte sur la lenteur de la procédure de sa fille. Je ne veux plus entendre que les agresseurs du périscolaire s'en sortent avec du sursis. Mais ma question, c'est comment comptez-vous faire en sorte que la justice fasse à nouveau son travail et que la balance soit à nouveau complètement équilibrée?
Alors déjà, permettez-moi de dire que je dois dire, extrêmement choquée par la réaction d'une partie, justement, du monde judiciaire après l'affaire Liana. On voit depuis quelques jours des mobilisations, des rassemblements de magistrats. J'ai vu une petite pancarte « Je suis le parquet d'Auch ». Vous savez, en référence à Je suis Charlie, donc journaliste assassiné par un terroriste. Non, moi, je suis pas le parquet d'Auch, en fait. Je suis Liana, je suis les parents Liana. Et je veux dire qu'on puisse avoir ce genre de discours avec des boucles télégrammes dans lesquelles on s'organise pour faire des tribunes, pour défendre la profession, ou faire des communiqués de presse, comme j'ai vu celui du Conseil supérieur de la magistrature, donc qui juge les juges, où il y a deux lignes de compassion pour Liana, 5 lignes pour dire circuler, il y a rien à voir, et 10 lignes pour dire c'est insupportable de toucher à la profession, d'oser remettre les juges en cause. Voilà, donc moi vous le dis.
C'est un réflexe corporatiste.
Absolument, c'est un total réflexe corporatif. C'est insupportable qu'on ne puisse pas dans notre pays interroger une décision judiciaire et interroger une défaillance personnel, une faute professionnelle. Est-ce que là, j'y réponds. Je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet déjà de l'interdiction de la syndicalisation des magistrats. Il est inadmissible qu'on accepte que des magistrats aujourd'hui soient publiquement syndiqués dans des syndicats politisés, notamment d'extrême gauche comme le syndicat de la magistrature. Il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons aujourd'hui des juges qui jugent des juges et qui sont élus pour cela sur liste syndicale.
Il faut supprimer la loi Taubira aussi.
Il faudrait à minima, en tout cas, de ce point de vue-là, que les juges qui jugent les juges soient tirés au sort, ça me paraît être le minimum. Et pour ma part, je considère qu'il faudrait revoir aussi la manière dont ces juges sont formés et recrutés.
On supprimerait l'école de la magistrature, c'est une proposition possible.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut distinguer selon le type d'affaires qu'ils vont juger, qui nécessite plus ou moins évidemment d'expérience, mais il faut faire monter en puissance le tour extérieur, c'est-à-dire le recrutement de professions extérieures, notamment d'anciens avocats de la défense, de commissaires, de gendarmes, d'anciens policiers.
On vous verra donc à la manifestation du 4 juillet, le grand rassemblement du 4 juillet.
Oui, moi j'ai aucun problème.
C'est une vraie question, bien sûr,
aux manifestations et pourquoi pas.
Si, quand vous critiquez la justice, je me demande si vous ne critiquez pas surtout ces juges qui vont empêcher votre temps de
se présenter.
Je me pose cette question-là, parce que moi je trouve que ça fait des années qu'on charge la justice. Moi je l'entends, elle n'est pas parfaite. Mais dernièrement, vous êtes en train de critiquer les travaux de juges, alors qu'il est avéré quand même que de votre tante a pris de l'argent pour faire autre chose que.
Je vois pas du tout le rapport, il est surtout avéré.
Aujourd'hui, vous tirez sur la justice tout le temps, mais c'est tellement. En fait, moi, je suis en train de me dire, il y a tir sur la justice, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé là-bas à Auch, c'est infernal, et il faut vraiment régler le problème, mais c'est vrai que c'est facile aussi de mettre un poteau en disant, la justice.
Je tire sur certains juges, comme vous le dites, parce qu'il y a une petite gamine qui a fini violée et tuée après 10 ans d'errance judiciaire et de multiples signalements qui sont restés sans suite. Donc, c'est mon moteur principal, mais je pourrais vous parler de l'affaire Elias. C'est le même genre de défaillance. Donc, oui, à un moment donné, faut qu'on accepte une justice indépendante. C'est pas une justice intouchable et irresponsable. Voilà. Et quand il y a des fautes professionnelles, il faut pouvoir, à un moment donné, les pointer du doigt. Alors, j'entends bien sûr, c'est un vrai sujet, la question des moyens. Ça fait 40 ans qu'on n'investit plus dans la justice, on investit dans l'assistanat dans ce pays. Donc, c'est sûr qu'on a fait des choix de société. Hein, faut peut-être les revoir. Mais on doit quand même aussi pouvoir interroger la politisation en effet de la justice et même l'idéologie du laxisme. J'aurais pas le temps de donner tous les chiffres ici, mais ça n'est pas un mythe, c'est une réalité avérée par les chiffres quand on voit aujourd'hui les taux d'incarcération et la durée réelle des peines qui sont exécutées dans nos prisons françaises.
Merci, Madame Leroy, députée Identité Liberté. Marion Maréchal, d'être passée par les GG, par les grandes gueules. Dans un instant, quand les écolos se convertissent à la climatisation, on va en parler avec vous, mais simplement, moi j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à travailler sans climatisation. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'installe pas chez vous, dans votre hôpital, dans votre école ou autre? Venez témoigner au 32-7.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
11h25, vous êtes sur RMC, RMC Story. D'ici 15h, 15h tapante, il y aura un coup de fil pour vous faire gagner la prime de match. Prime de match qui se monte à 58 000 euros.
Jolie somme là, maintenant, 58 000.
Tu m'étonnes. Alors,
oui, c'est une semaine de ton salaire, c'est vrai que c'est pas mal. Hein.
J'aimerais bien.
Allez-y.
Parce que si j'avais ça, je serais pas obligé de t'écouter tous les jours. Je prendrais l'argent.
Et hop, ça fait plaisir.
Envoyez but par SMS au 732-16. But par SMS au 732-16. D'ici 15h, on va appeler l'un des inscrits. Bien sûr, l'appel arrivera et il faudra donner cette somme, 58 000 euros. Vous avez encore quelques minutes pour vous inscrire. Moins de 10 minutes, faites-le. But par SMS au 732-16.
Ouais,
et d'ici 15h, 58 000 euros net d'impôt puisque c'est du gain de jeu.
Putain. 58 000, c'est combien de climatiseurs? Parce que maintenant, il faut compter en climatiseurs.
Dans tout, bah, tu peux compter qu'un
or. 2000 balles, me dit-on, c'est Anne-Laure. Mais enfin, Anne-Laure, elle a un climatiseur en or.
Bah,
la
baronne, elle a son château en plus.
Elle doit refroidir ses 12 enfants.
Ouais. Ah. Dehors des gueux qui lui font à manger, tout ça.
Anne-Laure, c'est notre chef d'édition qu'on chambre régulièrement. Donc, la climatisation, on en reparle parce que c'est intéressant de voir comment les écologistes évoluent. Il suffit d'écouter Madame Sandrine Rousseau, qui est invitée de BFM TV hier.
Les hôpitaux, par exemple, il est évident qu'il va falloir avoir un plan de climatisation prioritaire dans les écoles. Là. Mais après, là, la climatisation, c'est la solution du chacun pour soi. Et parce que c'est de la consommation électrique, mais c'est une maladaptation au réchauffement climatique.
J'adore.
Si on met de la climatisation dans les écoles et dans les hôpitaux, c'est pas la solution de l'égoïsme, c'est plutôt la solution du bien-être pour tous.
Oui, parce
après,
que
c'est la liberté de chacun d'acheter ou pas.
Si tu pousses à la réflexion jusqu'à l'absurde, lorsqu'on se chauffe chez soi l'hiver, on pourrait trouver ça égoïste, finalement. Et on pourrait dire, ah ben non, il faut que des chauffages collectifs et surtout pas un chauffage individuel. Bon, ça reviendrait à personne. Enfin, aucun politique ne remet en cause le chauffage d'hiver. Donc, effectivement, ça y est. En fait, cette canicule a fait tomber deux tabous. Déjà, un, les climato-sceptiques, peuvent se taire à jamais. On voit bien que la planète se réchauffe. On le constate. Et puis, deuxièmement, effectivement, la clim, c'est quand même une solution. Alors, c'est pas la solution à tout, mais enfin, je rappelais le chiffre, hein, 7% seulement des écoles françaises sont climatisées, on est loin des 100%, donc il y a une marge. Et on voit des écologistes quand même qui ont tout fait pour freiner la climatisation, finalement se rendre à la raison, mais un peu comme sur le nucléaire, hein, pendant longtemps ils étaient très anti-nucléaire, maintenant ils ont quand même changé de discours. C'est pareil avec la clim, le problème c'est qu'on a perdu du temps, non?
Oui, mais alors ça montre, comme ils se présentent comme des grands visionnaires et des sachants, qu'il y a eux qui connaissent la vérité et eux seuls, c'est grave parce qu'ils se contredisent. Donc ça montre que leur truc est bidon. Et c'est vrai que Madame Rousseau, elle est au top de ce groupe écologiste. Et que sa manière de communiquer, c'est presque un spectacle de cabaret. Moi, je pense que la prochaine fois, elle sera battue aux élections législatives.
Ouais, moi, je pars plutôt du principe qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Enfin, je suis désolée. Ouais. Pourquoi on n'a pas le droit, à un moment donné,
Les cons aussi, alors.
Oui, mais tu sais, le masculin l'emporte malheureusement en langue française. Pas sur tous les sujets, mais sur celui-ci, bien évidemment.
Il fallait féminiser maintenant.
Non, déjà la Covid, hein, on peut garder les cons. Pourquoi ? Je suis désolée. Là, tout le monde dit, tout le monde reproche à Macron de ne pas dire pardon, je me suis gouré, je suis désolée. Et bien là, Madame Rousseau, elle est en train de le faire.
Ouais, elle dit pas ça comme ça.
Non, elle dit pas ça comme ça.
C'est un peu trop d'égo pour ça.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que, là, on a la chef du Parti écologiste qui nous dit.
Non, pas chef.
Va falloir climatiser. Oui, non, c'est Madame Tondelier.
Mais qui a aussi changé de discours sur la clim.
Voilà, donc, écoutez, maintenant qu'on en est là, moi, la seule chose que j'attends maintenant, c'est que maintenant qu'elle accepte le constat et qu'elle accepte la solution, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle va être d'accord avec les moyens qui vont amener à tout ça. Parce que là où je donnais raison à Madame Maréchal, qui était là juste avant, c'est on a la preuve que l'éolien... C'est un pansement. Et c'est même pas un pansement qui résiste à l'eau. C'est le petit pansement de bas étage. Ça ne fonctionne pas. Il faut mettre malheureusement tous les moyens sur le nucléaire. On l'a vu. Il va falloir qu'on se booste.
Là, elle parlait de l'hôpital. À l'instant, cette info. 42 degrés dans une chambre à Lariboisière. L'hôpital Lariboisière de Paris. Oui. Hein. grand hôpital écoute, parisien. Mais, 42 degrés. Mais pardon, je suis désolé, mais ça va plus loin. C'est criminel. On pourrait, c'est criminel.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
On pourrait porter plainte.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
Contre l'hôpital et donc contre l'État qui gère les hôpitaux.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, Alain disait les répercussions juridiques vont aller sur le chef d'entreprise du jeune homme qui est décédé. Mais là, c'est pareil. Moi, l'an dernier.
Imagine un malade qui est par exemple en ce moment en attente d'une greffe.
On avait le monsieur là qui était en chimiothérapie.
Dans une position de fragilité qui doit être mis, qui ne peut pas être dans une salle. Enfin, 42 degrés.
Mais là, tu avais le monsieur qui était en chimiothérapie. Enfin, une chimiothérapie, t'es pas bien, t'as perdu du poids, t'as la gerbe, t'as mal partout, t'as une douleur lassante partout, et on te met sous 40 degrés, puis tu peux pas.
Bruno,
je trouve que
ça s'entend ce que dit Rousseau, parce qu'en fait, elle parle d'une urgence. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de rafraîchir les maisons, les habitations, les lieux de travail. Donc en fait, en fin de compte, c'est quoi? C'est des ventilos, c'est de la clim et tout. Par contre,
le ventilo aide, ça délimite quand il fait 40 degrés.
Ah oui, ventilo, non, mais si, faut mettre.
T'as le sirocco dans la maison.
Non, mais le truc, c'est que aujourd'hui, on a pris tellement de retard. Mais en fait, la vraie solution, et tous ceux te le disent, tous ceux qui ont un peu de réflexion là-dessus te le disent, c'est de végétaliser
c'est
l'urbanisme.
Ce que je dis depuis le début.
C'est ce qu'il faut faire depuis longtemps. Et moi, personnellement, ce que je vois, Sandrine Rousseau et des écolos qui sont par exemple à la mairie de Paris. Moi, j'ai pas vu la mairie de Paris végétaliser Paris, en fait.
Ça fait 25 ans que la gauche dirige Paris.
Ah oui, pourquoi
avec ils ont des pas... écologistes.
En fait, moi, je trouve qu'ils auraient été très forts de dire, regardez, nous, on a une ville, la plus belle ville du monde, on va la végétaliser. C'est pas ce qui se passe.
Oui, mais le problème, c'est que là, tu vas toucher le problème des bâtiments qui sont classés. Les bâtiments de France vont intervenir. Ils vont dire, bah non, ça, on peut pas végétaliser, voilà. On peut pas toucher.
Olivier,
il faut revoir le code de l'urbanisme. Il y a beaucoup de choses à revoir.
Olivier, on est de la même génération, Olivier. Et rappelle-toi, moi, la maison de ma grand-mère, oui. À Rueil-Malmaison, il y avait du lierre sur la maison. Et les gens disaient, ah, ça met l'humidité. Non, en fait, ça rafraîchit la maison de 10 à 15 degrés.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, il n'y a que ça à mettre, il y a des trucs comme ça à faire.
Oui, parce ou
que
les comme là, grosses pierres à la campagne, des maisons où tu as des énormes.
Mais, ça, les grosses pierres, ça va être compliqué, mais moi, je pense qu'en mais... végétaliser, c'est pas compliqué. Mais là, t'es tellement en retard sur tout ça et qu'aujourd'hui, les canicules succèdent aux canicules, c'est qu'en fait, t'es obligé de. Et même elle est en train de manger son chapeau parce que t'es obligé de revenir sur un truc
qui m'en met la évidence.
Oui,
parce que rien n'a été fait.
Toujours végétalisé en ville, comme Paris, tu gagnes quelques degrés.
Non, attends.
Non, à l'intérieur.
5. Bah déjà, moi, tu me retires 5 degrés chez moi, je commencerai déjà mieux dormir la nuit. Hein. Parce que moi, la nuit, ma maison, mon appartement, il est à 31. Si je redescends 25, 26, je respire. Hein.
Enfin, il y a des situations exceptionnelles et puis il y a des priorités. La priorité sont
les. À protéger.
Voilà, sont les enfants à l'école
la clim.
Et les gens à l'hôpital. Et c'est toujours pareil. Tu peux installer la clim et derrière, tu n'es pas obligé de l'utiliser. Si la température est bonne, tu n'utilises pas la clim.
Oui.
Mais simplement, tu mets à disposition un outil qui te permet, en cas d'urgence, de pouvoir préserver la vie des autres.
On t'a dit que les 2 à 3 milliards qui sont récoltés chaque année avec lundi de Pentecôte, pourquoi il n'a pas servi à climatiser tous les hôpitaux de France?
Alors, il a servi aux EHPAD.
Joris, bonjour Joris. Bonjour, vous vouliez intervenir dans notre discussion, Joris, je vous en prie, allez-y.
Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je suis ostréiculteur, j'ai 33 ans, j'ai un fils qui a 2 ans. Ça fait 10 ans que je produis des huîtres sur le bassin d'Arcachon. Je produis aujourd'hui plus d'huîtres mortes que d'huîtres vivantes.
Parce que l'eau se réchauffe.
Parce que l'eau est trop chaude.
Bien sûr.
Et donc, aujourd'hui, on fait un débat où on essaye un peu d'accabler les écolos parce qu'ils retournent leur veste sur la clim. Bon, oui, il faudrait mettre la clim dans les établissements publics, bien évidemment. Après, la clim, là, aujourd'hui, quand le RN et tous les partis de droite nous disent que c'est la solution ultime, que le nucléaire va nous sauver, etc., tout ceci ne fonctionnera plus quand on sera dans une atmosphère surchauffée, que les réacteurs vont s'éteindre. On va réchauffer l'air encore plus avec toutes ces clims qui vont tourner pendant une semaine.
On en est loin,
mais aujourd'hui, la canicule...
Avec ce type d'argument, on ne fait rien. Parce qu'à force de dire, oui, mais comprenez, si tout le monde était climatisé, ça ne tient pas, ben on ne fait rien, on ne commence même pas.
On est
7% des écoles, vous voyez. Quand on sera à 50% des écoles, ben on pourra commencer à se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution?
Bien sûr, on pourrait.
Il faut faire les deux, d'ailleurs. Ça n'empêche pas l'autre. Vous savez que les rénovations... Oui, mais enfin, la rénovation énergétique, ça a des limites. On en parlait tout à l'heure. On passe de passoire thermique, en fait, à bouillon. Thermique, c'est-à-dire que c'est tellement bien isolé que l'air chaud ne s'évacue plus de ta maison. Et il y a plein d'exemples en ce moment qui sont donnés de maisons qui ont été faites avec les nouvelles normes, etc., où il fait une chaleur à crever à l'intérieur parce que ça retient trop l'air chaud.
Allez-y,
donc attention aussi à ce qu'on nous vend actuellement.
Allez-y,
bien sûr, on nous vend plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi regarder les votes des parlementaires et les votes des gens que vous invitez sur les plateaux.
Oui.
Et on va tirer aujourd'hui sur les écolos.
Tout à l'heure, j'ai posé la question avec Marion Maréchal, elle tenait un discours climato-sceptique et elle a changé. Je lui ai dit aussi, vous avez changé aussi.
Voilà, mais j'aimerais bien qu'ils reconnaissent ça, ces gens-là. J'aimerais bien et qu'on montre qu'ils ont voté toute cette année. Toute cette année, ils ont voté des mesures d'assèchement des sols qui favorisent l'agriculture intensive. On sait qu'on va dans le mur, tous les spécialistes le disent. On ne les écoute pas et nous, on crève en fait. Et moi, mon fils, je ne sais pas ce que je vais lui laisser. Je vais lui laisser des miettes, mon activité va s'éteindre, on ne va rien me proposer derrière et on va crever la bouche ouverte en fait.
Oui, mais regardez, Joris, vous avez quand même besoin. Moi, j'entends ce que vous dites parce que moi, j'estime que la clim n'est pas la solution à tout.
Il faut faire les
j'estime qu'il y a plein. J'arrête pas de le marteler. Vous végétalisez la surface sud d'un immeuble, vous gagnez 10 degrés. Vous gagnez 10 degrés. Mais c'est pas pour ça qu'on doit être contre clim, pour clim. On doit être au milieu. Et là, c'est ce que Madame Rousseau a fait. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et tant mieux si elle a enfin compris le sujet. En revanche, là où je m'inquiète, c'est sur les solutions qu'elle veut. Je suis désolée, les éoliennes, ça ne marche pas. Ça pollue énormément sur la fabrication, sur l'installation et ensuite sur le recyclage.
Joris, là, je viens de voir, il y a un exemple. Je l'ai sous les yeux. C'est une information de Véronique Fèvre, qui est la journaliste éducation à BFM TV. À Rueil-Malmaison, on vient de faire passer les oraux du bac dans un parking. On a descendu les élèves et on a installé les tables dans un parking. J'ai la photo sous les yeux, vous imaginez? Donc c'est pour ça que
mon époque.
Si on fait des travaux de rénovation du bâti ou si on installe la climatisation, eh ben au moment où on a une vague de chaleur pour que les enfants puissent passer les examens, on la met pendant 2-3 jours le temps nécessaire et puis on
reste les examens c'est toujours en juin.
Mais moi je suis pas anti-clim hein,
mais j'ai bien compris.
Et quand même aussi parce que là on pointe du doigt les écolos mais quand même quand on a appris hier, c'est le Parisien qui donnait cette info, que c'est le siège de Google France qui a accueilli certains écoliers du 11e arrondissement parisien, les mêmes d'ailleurs qui nous expliquent que le capitalisme, c'est ça qui provoque le réchauffement, c'est quand même le capitaliste Google qui a permis à ces écoliers de pouvoir continuer à étudier.
C'est bien Olivier, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas assez d'impôts, donc ils prennent des gamins, c'est bien.
Mais tu vois, le pragmatisme du privé parfois face à la bureaucratie.
Merci à Joris et continuez de bosser, j'espère pourrez bosser longtemps encore comme ostréiculteur parce que je peux vous dire qu'ici on a des grandes gueules, on est aussi des fines gueules et les huîtres on adore. Enfin moi personnellement j'adore.
C'est clair.
Et ici on est des amateurs bien sûr.
J'ai même ma fille de 6 ans qui peut vous dégommer une bourriche.
Ça c'est la phrase du jour, ma fille de 6 ans peut dégommer une bourriche. Midi moins 20 dans un instant. Le ministre de l'Intérieur demande à la France entière, à tous les préfets de département d'interdire la vente d'alcool sur la voie publique partout en France. Vous venez en parler avec nous au 3216.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules, on va terminer l'émission avec vous bien sûr au 3216. On va terminer l'émission en revenant au point de départ. On va boucler la boucle, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la musique, Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, vous savez, c'est le film sur Elliot Ness, qui était l'homme qui traquait les contrebandiers d'alcool dans les années 20 aux États-Unis, les années 20 et les années 30.
Les années de la Prohibition.
Oui, les années de la Prohibition.
Tu es en train de mettre le préfet de police de Paris en place ce week-end.
Laurent Nunez, je dis on boucle la boucle parce qu'on a commencé l'émission en disant Laurent Nunez a demandé l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool à Paris. Puis finalement, il est allé un petit peu plus loin dans la matinée. C'est-à-dire que maintenant, il demande l'interdiction de la vente d'alcool et de la consommation d'alcool sur la voie publique dans tout le pays. Il dit au préfet, prenez ces décisions, prenez ces interdictions de vente d'alcool.
La réflexion de Nunez et du préfet de police de Paris, c'est de dire que finalement, si on autorise, donc c'est ce qui est dingue, hein, c'est-à-dire que là, à partir de midi à Paris, on peut plus acheter une bouteille d'alcool dans Paris. Bon, c'est parce que ça va encourager l'alcoolisme et puis après, on aura plus de monde à l'hôpital. Donc déjà, ça part du principe que tous les gens qui achètent de l'alcool sont les alcooliques. Donc c'est quand même une vision du monde. Et en fait, pour une minorité de gens, effectivement, qui ne se comportent pas bien, qui tombent dans l'excès, eh bien, on emmerde regarde tout le monde. Est-ce que c'est pas totalement liberticide?
Alors, surtout, c'est une décision incompréhensible. Moi, je mets au défi quelqu'un en lisant les médias, oui, etc., de comprendre exactement comment s'applique la décision. C'est incompréhensible.
Mais c'est
ensuite
impossible.
On est en fin de canicule.
Alors, les bars ne sont pas concernés, hein, pour préciser.
Voilà,
mais en revanche, tu peux pas aller acheter une bouteille de vin à 13h, tu pourras pas aller acheter une bouteille de vin.
Oui, mais genre au Carrefour, au Franprix, ça t'as plus le droit.
Ceux qui veulent boire, il y a des caves en France quand même, les particuliers ont déjà
la vente à emporter d'alcool est interdite.
Et en période de Coupe du Monde, franchement, c'est pas sympa.
Attends, écoute, ça va plus loin, bien sûr, parce qu'on a Patrick qui est avec nous, qui nous appelle de l'Allier et qui est président d'honneur du syndicat des cavistes. On le bénit, belle profession.
Ah oui, là, vous avez tout notre soutien.
In vino veritas et tutti quanti. Patrick, bonjour, bienvenue.
Bonjour à tous. Bonjour.
Vous étiez en colère, c'est pour ça que vous nous avez appelé.
Ah oui, parce que l'arrêté, j'ai l'article 2 de l'arrêté préfectoral de Paris, du préfet de police de Paris, signé par monsieur Barbier.
Ouais.
Je dis son nom.
Ouais.
La vente à emporter des boissons alcooliques du groupe 4 et 5 est interdite à Paris, du vendredi 26 juin à 18h jusqu'au samedi 27 juin à 7h. Et du samedi 27 juin à 18h jusqu'au dimanche 28 juin à 7h. Cette interdiction est également applicable au commerce de détail vendant à titre exclusif de telles boissons. Les seuls commerces de détail qui vendent à titre exclusif ces boissons, c'est les cavistes. Donc Franprix aura le droit de vendre de l'alcool.
Ah bon?
Oui. Et le caviste n'aura pas le droit. Mais écoutez, c'est scandaleux. On a eu le préfet des Landes qui a pris une mesure dimanche dernier. Lui, il interdisait la vente à emporter, mais il interdisait aussi la circulation d'alcool dans son département. C'est-à-dire que le producteur d'Armagnac qui voulait expédier de l'Armagnac à Bordeaux pour prendre le bateau pour envoyer aux États-Unis, il n'avait pas le droit. Mais on est chez les fous, on est en dictature.
Non mais Patrick, donc si je vais chez vous ce soir, sur le coup de 18h,
pour acheter une
bouteille... Non mais pour acheter une bouteille... Vous, votre collègue parisien, pour acheter une bouteille de vin, je peux pas, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors
Parce que je suis considéré par le préfet de police comme quelqu'un qui pourrait finir aux urgences.
Mais vous rendez compte?
Ça
fait 40 degrés dans votre bureau parce qu'il n'y a pas de clim. Vous rentrez chez vous, vous avez envie de vous faire un rosé piscine en regardant le match de foot ce soir.
Oui, Patrick! Patrick!
C'est le RSS plus la canicule.
Exactement!
Vous rendez compte là où on en est?
Allez-y.
C'est une dictature.
On les aura, Patrick.
Rebellons-nous. Et on se permet de faire ça parce qu'on est incapable de gérer quoi que ce soit.
Oui, c'est ça.
Et en plus, ils ne nous concertent pas. Ils ne nous concertent pas. On a réussi à faire casser l'arrêté préfectoral des Landes. On a réussi à faire casser l'arrêté préfectoral de Seine-Maritime. Les autres départements limitrophes au 75, c'est l'interdiction de vente à emporter et de consommation sur la voie publique. Ça, on l'admet. De vente à emporter sur la voie publique, c'est-à-dire que le gars qui se promène avec sa glacière et qui vend en fraude sans payer de TVA sans rien, qu'il n'ait pas le droit de vendre, c'est normal. Mais que le caviste qui était commerce essentiel pendant le Covid, hein, on a été commerce essentiel, on a réussi à
rester ouvert. Vous étiez là, hein.
Ah oui.
On avait ça à faire.
Pour essayer de remonter le moral des gens, hein, mais ces gens-là, il y a quelqu'un qui disait, qui s'appelait Montaigne, il disait faites-leur boire du bon vin, ils vous feront de bonnes lois. Mais ils doivent plus boire, c'est pas possible.
Ça a été interdit.
Non, l'Assemblée, ils ne boivent plus, ils n'ont plus le droit.
Ils n'ont plus le droit.
Mais pardon, Patrick, je vous reconnais que c'est plus simple de s'en prendre au caviste que de faire en sorte qu'un soir de match, il n'y ait pas de débordement, pas de pillage.
On est d'accord. Mais je vais peut-être me reconvertir en vendant de la drogue. Hein, aura plus de chance parce que les dealers ont de beaux jours devant eux, on leur interdit rien alors que c'est interdit. Et vous savez, moi il y a quelque chose qui m'horripile, c'est que dans toutes les émissions, que ça soit radio ou télévisuelle, à chaque fois qu'on parle de vin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
On est obligé derrière, de le dire.
Et derrière on vous fait un reportage comme quoi les douaniers de Marseille ont pris 4 tonnes de cocaïne et il n'y a pas de message sanitaire. Mais moi, je suis scandalisé d'écouter ça. Ça me démonte. Me met dans des
colères.
Patrick,
du coup, vous allez faire quoi alors? Comment vous allez vous adapter là, alors, du coup?
Alors, nous, ce qu'on a fait déjà, c'est que le syndicat, ce matin, a écrit au préfet de police de Paris, a envoyé un message. On a essayé de les avoir au téléphone, c'est impossible, mais on leur a envoyé un message, un email, en lui demandant qu'il revoie son arrêté préfectoral, c'est-à-dire qu'il interdise sur la voie publique. On trouve ça normal. Nous, on prône pour la modération. Le caviste, c'est la culture du vin, c'est la culture de l'alcool.
Avec modération. Désolé, Patrick, mais je suis obligé de le répéter. Reste avec nous, Patrick, parce qu'on a Thierry qui est du Gers. Bonjour, Thierry.
Oui, bonjour.
Parce que vous montez à Paris pour la finale du Top 14.
Eh oui, tout le monde parle du foot, mais demain soir, il y a la finale du Top 14, Toulouse-Montpellier.
Oui, belle finale.
Voilà. Donc nous, c'est notre plaisir un peu tous les ans. On essaie de venir voir la finale. Et bien sûr, on va pas boire que de l'eau, quoi.
Mais bon, vous pourrez pas acheter de l'alcool et la consommer dans le domaine public.
Bah, ça dépend, dans le stade, ça devrait être en vente.
Et c'est avant midi que ça s'arrête la vente, là.
Allez-y, Thierry, continue. Allez-y.
Non, non, mais voilà, après nous, c'est notre plaisir annuel. Et
Ah oui, si, c'est bon.
Là, il faut y aller, il est midi moins 10, il faut y aller, ça s'arrête à midi.
Non, donc, c'est de vendredi 18h à samedi 7h et de samedi 18h à dimanche 7h. C'est
on ne comprend rien.
Non, mais attendez, parce que Emmanuel comprend rien, je vais expliquer. L'arrêté, c'est de vendredi 18h à samedi 7h et de samedi 18h à dimanche 7h. Interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique.
Thierry, vous arrivez au stade à quelle heure demain?
On va rentrer à.
Mais même avant. Même avant.
Oui.
À quelle heure vous serez au stade demain?
Ah, ben demain, on sera au stade vers 17h.
Maniez-vous, parce qu'à 18h, voilou.
Non, puis c'est bien, parce que s'il y a des gens qui se font arrêter, comme les tribunaux ne sont pas engrangés et les forces de l'ordre
engrangés,
pas dépassées.
Oui. Engrangés.
Merci Patrick, merci Thierry. Bonne finale, mon cher Thierry.
1000 personnes, il y a bien des gens qui vont boire de l'alcool. Hein.
Mais oui,
oui. Merci Thierry.
Avec modération.
Et bravo à Patrick. Bravo à Patrick, le caviste.
À bientôt,
Patrick, le caviste.
Au plaisir, les grandes gueules.
Comment s'appelle votre magasin?
Et moi, c'est l'artisan caviste à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Mais voilà. Et puis j'en ai un autre à QC aussi, c'est les caves Max Jourdain à QC, à côté de Vichy.
Donc, merci Patrick d'avoir été dans les GG.
Il n'y a pas que l'eau à Vichy, donc.
C'est. Alors, qu'est-ce que je regarde l'heure? Midi moins 10. On n'a pas eu de coup de fil pour la prime de match dans les GG. Donc tu vas voir que ça va être.
Bah, toujours pour Estelle, toujours.
Ils ont leur chouchou.
Eh bien sûr.
58 000 euros à gagner. Aujourd'hui, la prime de match. Vous pouvez encore envoyer brut par SMS, but par SMS, brut. Au 7-32-16. Je pensais aussi au champagne.
Super.
Ça va être chez moi, je le sens la prime.
Bah, c'est avant 15h, donc forcément.
T'imagines le week-end que tu passes avec 58 000 euros?
Ah, t'étais bien là.
Ah ouais, là t'es vraiment pas mal. Bien.
Bonjour Estelle.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Nous allons évidemment parler des conseils de la canicule dans Estelle Midi, événements annulés comme Solidays et la marche des fiertés, alcool interdit. Est-ce que vous approuvez ce principe de précaution? Bah écoutez, vous nous dites tout au 32-16, on vous attend. On parlera également de ce rapport qui préconise de multiplier par 5 les frais d'inscription à l'université pour ou contre. Bah oui, il n'y a plus d'argent dans les facs, donc à un moment il faut trouver une solution. On parlera également, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, en ce jour de match de l'équipe de France sans Didier Deschamps qui est à l'enterrement de sa mère, le dessin polémique de Charlie Hebdo. Donc on voit Didier Deschamps tenir une urne avec marqué maman et avec marqué ramène la coupe à la maison.
C'est ça, Charlie.
Est-ce que ça va trop loin ou
c'est ça,
oui, moi aussi ça me fait rire, mais manifestement ça n'a pas fait rire tout le monde.
Et le tu préfères?
Donc on en parlera. Le tu préfères apéro à la maison ou apéro en terrasse? Et puis on se demandera également.
Attends. Vas-y. Apéro à la maison ou en terrasse, Laura?
Moi à la maison.
À la maison.
Oui, mais on peut plus l'alcool, là, c'est interdit.
Maintenant. Si, mais moi j'ai des réserves, t'inquiète.
T'as caché à la maison.
Tout pour la margarita à la maison.
À la maison, mais avec les volets fermés pour pas que.
Bien sûr,
le préfet
c'est
nous
la prohibition. Et puis attends, il y a 14h. Est-ce que vous êtes prêts à changer vos plans pour les vacances? C'est que d'habitude, on a tous envie de partir dans le sud, au soleil,
et
à la plage.
Il y a la chaleur, donc tu veux.
Mais est-ce que là, vous n'allez pas vous dire, tiens, vous savez, moi je me fais chambrer avec la Bretagne tous les ans. Mais est-ce que là, vous n'avez pas envie d'aller en Bretagne?
Non,
en Norvège.
À la montagne.
Non, venez en Corse.
C'est très cher, la Norvège.
C'est très beau. Moi, je l'ai fait l'été.
C'est magnifique.
Alors c'est sûr que tu te baignes, elle fait 12 degrés l'eau, mais c'est
non, venez en Corse, vous avez la montagne si vous avez chaud, et vous pouvez aller vous rafraîchir ensuite les pieds dans la mer. Non, venez en Corse. Ouais. Il fait plus froid en Corse actuellement que
à Paris. Bonne émission avec Estelle. Ouais. Le 32-16 est à votre disposition. Restez bien près du téléphone. Il y a la prime de match à gagner. On nous dit que le coup de fil est avant 15h, donc ce sera chez Estelle.
Forcément, c'est chez moi.
Et 58 000 euros à gagner.